Alléluia. Ce soir, nous commençons une série de cours, les fondements de la foi chrétienne. Alors, nous allons débuter. Les cours sont divisés en semaines. Semaine 1, semaine 2, et ainsi de suite. Il y a plusieurs thèmes. Je vais donner une petite idée. Il y a le salut, il y a qu'implique la vie en Jésus-Christ, le baptême d'eau, c'est quoi, la Sainte-Cène, c'est quoi, l'importance de lire la Bible, qu'est-ce que la prière, le jeûne biblique, la louange et l'adoration, et ainsi de suite. Alors, nous commençons par la semaine 1, qui est la base. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Alors, pourquoi, d'après vous, avons-nous besoin d'être sauvés? Et vous allez voir, tout est basé sur la parole, c'est pourquoi nous allons lire beaucoup de versets. Et les versets que nous allons donner, car vous savez, on ne peut pas baser une doctrine sur un ou deux versets, ce sont un résumé des versets. Mais il y a beaucoup d'autres versets qui appuient ce qu'on va vous enseigner ce soir et durant les autres semaines. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Premier constat, c'est la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché en lui. Il est la perfection en toutes choses. Il est parfaitement bon, parfaitement amour, parfaitement juste, parfaitement saint, et ainsi de suite. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Job 34, verset 10. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Psaume 92, verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Dieu ne peut admettre en sa présence ce qui est mal, ce qui est péché. Il ne peut partager sa vie avec le pécheur, car c'est contre sa nature. Dans Psaume 5, versets 5 et 6, il est écrit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. » Et dans Habacuc 1, verset 13, il est écrit « Tes yeux, c'est les yeux de Dieu qu'on parle, sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Alors Dieu, le premier constat, est parfait. Le pécheur ne peut subsister en sa présence, parce que le péché ne peut être devant Dieu, ne peut subsister, si vous voulez, devant Dieu. Il va être détruit. Le deuxième constat, c'est le péché de l'homme. On a vu la sainteté de Dieu. Maintenant, voyons le péché de l'homme. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Autrement dit, tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, ce qui est contraire à ce que Dieu appelle bien. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a créé l'homme parfaitement saint. L'homme était sans péché, Adam. Et quand il a créé Ève, était sans péché aussi. Après l'avoir créé à son image et après avoir complété sa création, Dieu dit dans Genèse 1, verset 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, toute sa création, ça incluait Adam et Ève. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Tout était très bon, y compris l'homme et la femme. Tout était très bon aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Tout ce qu'il avait créé, incluant l'homme et la femme, était très bon. L'homme et la femme, par leur nature sainte, pouvaient vivre en communion avec Dieu. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la Genèse. Dieu les visitait chaque jour dans le jardin en Éden. Adam et Ève, les premiers humains, conversaient avec Dieu au quotidien. Imaginez. C'est vraiment fantastique dans le jardin d'Éden, converser à tous les jours avec Dieu. Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, on a le même privilège parce qu'il a déchiré le voile et on a le même accès. On peut converser à tous les jours avec Dieu. Ne nous en privons pas. La sainteté de l'homme a été mise à l'épreuve. Lorsque Dieu lui a ordonné de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est dans Genèse 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était un test. Il a été créé saint, mais sa sainteté devait être mise à l'épreuve. Alors c'était l'épreuve de sa sainteté. L'homme a échoué le test. Il a désobéi à Dieu. Il a transgressé l'ordre divin. Autrement dit, il s'est rebellé et a été à l'encontre de la volonté divine. C'est ce qui s'appelle le péché. Dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. On parle de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le péché venait d'entrer dans leur cœur. À ce moment-là, l'homme a perdu sa sainteté. Et par le fait même, sa communion avec Dieu. Dans Genèse 3, versets 8 à 10, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, comme à l'habitude, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Ça, ce n'était pas habituel. Habituellement, ils ne se cachaient pas de Dieu parce qu'ils étaient saints. Mais là, ils n'étaient plus saints, ils avaient perdu leur sainteté. La crainte de Dieu est rentrée. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Il a pris connaissance de sa nudité. Il s'est caché. Il a pris connaissance de sa condition de pécheur. Il savait qu'il avait désobéi, alors il a eu peur. Et il s'est caché de Dieu. Sa communion était coupée avec Dieu. Adam et Ève furent chassés du jardin en Éden. Ils ne jouissaient plus de la présence personnelle et privilégiée de Dieu. Ils étaient dorénavant sous la malédiction du péché et de la mort, comme Dieu les avait avertis. Si vous en mangez, si tu en manges, tu mourras. C'est ce qui est arrivé. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Alors, nous avons vu la sainteté de Dieu, le péché de l'homme, et maintenant, voyons les conséquences du péché. L'entrée du péché dans le cœur et la vie de l'homme a produit des changements à tous les niveaux. Corps, âme, esprit, style de vie, dans ses relations interpersonnelles, ses relations avec l'environnement, la honte, la peur est entrée dans sa vie, le mensonge, la méfiance, la violence, la maladie, la douleur physique, la souffrance morale, le travail pénible. Le travail était une bénédiction avant, mais il est devenu une malédiction. L'impureté, les querelles, les jalousies et toute autre chose semblable ont fait leur apparition après l'entrée du péché. Et ça continue à se perpétuer de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Nous le voyons très bien autour de nous, dans le monde. Tous les hommes sont les descendants d'Adam et Ève. Et ils reçoivent la nature pécheresse de leurs premiers parents. Ça nous inclut. Tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Cette nature transparaît dès les premiers choix conscients de l'enfant qui opte naturellement pour la désobéissance. Ainsi donc, nous sommes jugés sur nos propres péchés qui découlent de notre nature pécheresse. Dans Romains 5, verset 12, il est écrit, « C'est pourquoi... comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Pas juste parce qu'on hérite de la nature pécheresse, mais parce qu'on pêche. Dès qu'on a à faire un choix conscient, dès qu'on prend conscience du bien et du mal, notre nature nous pousse vers le mal, vers le péché, le mal selon Dieu, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le monde qui vont dire « Moi, je ne fais rien de mal. » Mais selon Dieu, oui, ils sont dans le mal. À cause de notre nature pécheresse, non seulement nous sommes coupés de la communion avec Dieu pendant notre vie terrestre, mais nous sommes aussi voués à la mort et à la perdition éternelle. Adam, quand il a péché, il n'est pas mort physiquement immédiatement, mais il est mort spirituellement. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible, dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais ce qui est bon, c'est la suite du verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il n'a jamais abandonné l'humanité. Il n'a jamais abandonné l'homme. Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, c'est la mort. La mort est à la fois physique et spirituelle, comme j'ai dit. Ce n'est pas l'anéantissement. Il y en a qui parlent de l'anéantissement. On meurt, il n'y a rien après. C'est fini, on disparaît. Mais ça, ce n'est pas biblique. Parce que l'homme possède un esprit et une âme éternelle. On a eu un début, mais l'âme et l'esprit ont été créés un jour en même temps que le corps. Il y a eu un début, mais il n'y a pas de fin, c'est éternel. C'est pourquoi que c'est si important de témoigner aux gens, parce que c'est pour l'éternité qu'ils vont se retrouver dans les temps de feu. Il n'y aura pas de fin. Ce n'est pas vrai qu'après la mort, il n'y a rien. Il y a le jugement. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Dans Romains 3, verset 23, c'est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans Éphésiens 4, 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. » À cause de l'endurcissement de leur cœur. La perdition, c'est le châtiment éternel qui est lié au péché. C'est la séparation de Dieu définitive et sans retour, dans un endroit qui est décrit comme un feu de souffrance inimaginable et interminable. Cet endroit est appelé lac de feu, étang de feu, enfer ou géhenne. Dans Matthieu 13, versets 41-42, c'est écrit « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura quoi? Un party, comme disent le monde? Des pleurs et des grincements de dents. On grince des dents. On voit, c'est de la colère qu'il va avoir en eux. Ils ne vont pas se repentir en enfer dans les temps de feu. Ils vont être encore plus fâchés, plus en colère. Ils vont grincer des dents, ils vont pleurer, ils vont souffrir. Dans Marc 9, versets 47 et 48, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Ou quoi? Leur ver ne meurt point. » Je ne sais pas si vous aimez les vers, mais moi, je n'aime pas les vers. Et où le feu ne s'éteint point. Être rongé par les vers éternellement et brûlé dans un feu ardent éternellement, telle est la destinée de tous ceux qui ne se repentent. Ce lieu horrible, on peut dire comment Dieu si bon peut avoir créé un tel lieu, bien, il n'était pas destiné à l'homme. Il était destiné à Satan et à ses démons. C'est écrit dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. » Ils sont maudits, ils sont sous la malédiction de Dieu. « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le désir de Dieu pour l'homme a toujours été de vivre en communion avec lui éternellement. Dieu aime l'homme. C'est l'homme qui se sépare de Dieu en choisissant de vivre dans le péché. C'est un choix personnel et délibéré. Pour satisfaire la justice de Dieu, l'homme doit nécessairement passer par la mort puisqu'il est pécheur. Et on a vu que le salaire du péché, c'est la mort. Telle est la situation de tout homme aujourd'hui. Qu'il soit considéré par les autres comme étant une bonne personne, ça ne change rien aux yeux de Dieu. Les bonnes actions qu'une personne peut faire dans sa vie ne satisferont jamais la justice de Dieu. C'est pareil comme imaginez un petit enfant qui vous apporte des morceaux de pommes, mais dans sa main toute boueuse. Les morceaux de pommes, il y a une bonne intention, mais ces morceaux de pommes sont impropres à la consommation. Vous ne pouvez pas les manger, ils sont pleins de boue, ils sont sales, ils sont impropres. Mais c'est la même chose, nos bonnes œuvres. Quand on arrive devant Dieu avec nos bonnes œuvres pour se justifier, pour entrer au ciel, c'est la même chose. C'est sale le péché. puis ça rend les bonnes œuvres impropres à la justice divine. C'est écrit dans Ésaïe 64:5, voyez comment Dieu voit les bonnes œuvres pour le salut. Je ne parle pas les bonnes œuvres après le salut, mais pour le salut, pour être sauvé. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, ça c'est nos bonnes œuvres, est comme un vêtement souillé. Un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. La religion n'est pas un moyen pour être sauvé, car elle s'appuie sur les bonnes œuvres. Lorsque Jésus vivait sur cette terre, ce sont les gens religieux qui ont soulevé la foule pour le condamner à mort. Ils connaissaient la vérité, mais ils la refusaient. La religion, c'est la tentative de l'homme de satisfaire la justice de Dieu par ses propres moyens. Le religieux refuse de se soumettre aux moyens choisis par Dieu pour le sauver de la mort et de la perdition éternelle. Alors que faire? L'homme ne peut se sauver lui-même, ni payer le prix de son rachat. C'est écrit dans Psaume 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Dieu aime l'homme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient à son secours. C'est lui qui nous offre le salut. Comme nous l'avons vu précédemment, dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voilà le moyen choisi par Dieu pour nous sauver. Comment pouvons-nous être sauvés? Eh bien, par le sacrifice parfait. Ça prend un sacrifice parfait. Comme nous l'avons déjà vu, le salaire du péché, c'est la mort. La justice de Dieu exige un sacrifice mortel en guise de compensation pour l'offense que l'homme lui a faite en le rejetant et en vivant dans le péché. N'oubliez pas que Dieu est concerné par nous, là, c'est notre Créateur. On le rejette puis on décide de vivre dans le péché et de ne pas s'occuper de lui. C'est grave comme offense. Et lui, il a décrété dans ses décrets que celui qui se rebelle contre lui, qui est pécheur, eh bien, c'est la mort. Alors, il y a un sacrifice qui est exigé. Puis dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des ordonnances au peuple d'Israël pour le pardon des péchés. Il fallait qu'un animal parfait, sans tache ni défaut, soit sacrifié au nom du pécheur, autrement dit à sa place, comme un substitut. Dans Deutéronome 17, verset 1, c'est écrit, « Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité. » Car ce serait en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Et dans Exode 12, verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, mais il faut qu'il soit sans défaut, qu'il soit parfait. Mais le sang d'un animal n'équivaut pas au sang humain. » Vous êtes d'accord avec moi? Même si j'aime beaucoup les chats, si quelqu'un tue un chat, ce n'est pas aussi grave que si quelqu'un tue un être humain. La valeur humaine de la vie humaine est de la plus haute valeur ici sur Terre. Donc, ces sacrifices voilaient les péchés aux yeux de Dieu, mais ne les enlevaient pas. Ces sacrifices étaient ce que la Bible appelle l'ombre des choses à venir. Une ombre, ce n'est rien. Si on voit mon ombre ici à cause des projecteurs, mon ombre, c'est rien. Si c'est quelque chose, c'est moi, c'est l'objet, la personne qui projette l'ombre. Ça, c'est la réalité. Mais l'ombre, ce n'est rien. Alors, ces sacrifices étaient l'ombre des choses à venir. Le sacrifice de l'agneau parfait sans péché était une image de Jésus-Christ, qui est l'agneau parfait qui est fourni par Dieu. C'est l'agneau qui est fourni par Dieu lui-même, qui est son Fils unique, Jésus-Christ. Le sang humain de Jésus-Christ, le sang humain innocent et pur, a coulé pour satisfaire la justice de Dieu, en guise de substitut pour la race humaine. Hébreux 10, versets 3 à 7. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Ça, c'était l'Ancien Testament, la loi. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, il dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, l'incarnation. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est venu offrir sa vie en sacrifice pour nous. Dans 1 Pierre 1, versets 18 à 19, il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été arrachés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris la malédiction sur lui pour nous en libérer. Ça, c'est le moyen que Dieu offre, le sacrifice parfait. Est-ce qu'il y a d'autres chemins pour être sauvé? Dans Jean 14, verset 6, c'est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, pas un des chemins, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Actes 4, verset 12, il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Ça ne peut pas être plus clair. Ceux qui disent qu'il y a d'autres façons d'être sauvés, ça ne peut pas être plus clair. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom ne peut nous sauver. Que ce soit Bouddha, Krishna, Mahomet, le pape, Marie, aucun ne peut sauver l'homme et le réconcilier avec Dieu, seulement Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est très clair, il n'y a pas d'autre accès à Dieu, il n'y a pas d'autre porte. La seule porte d'entrée, c'est Jésus. Dans 1 Jean 4, 14, « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils » comme sauveur du monde. Jésus est le sauveur, pas un des sauveurs. Maintenant, le seul salut, on dit que le salut est universel. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est sauvé, automatiquement? Il est venu mourir pour racheter l'humanité. Est-ce que ça veut dire que toute l'humanité est sauvée, vu que le salut est universel? Alors, pour les Israélites du temps de Jésus, le monde se divisait en deux groupes. Il y avait les Juifs puis les païens. Les païens, c'était les non-Juifs. Pour les Juifs, le salut s'adressait qu'au peuple élu de Dieu, c'est-à-dire Israël. C'est ce qu'ils croyaient. Mais la promesse du Sauveur a été donnée à toute l'humanité. Oui, le salut est universel, il est donné, il est offert à toute l'humanité. Dans Genèse 18, verset 18, il est écrit, « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Dieu a révélé son plan de salut universel aux apôtres dès le début de l'Église. Dans Éphésiens 3, versets 6 à 7. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Alors, oui, le salut est offert à tous, il est universel. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est sauvé? Non. Non, comme vous avez répondu, non. Car le salut est universel, mais il est aussi personnel. Il est offert à tous, mais chacun doit se l'approprier par la foi. Le salut est personnel. Chacun doit saisir l'œuvre de Jésus-Christ pour soi-même. Le premier pas consiste à se repentir de ce péché et de sa vie passée. Dans Actes 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Le mot grec original traduit par « repentez-vous » signifie « regretter ses péchés », « se corriger » avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Autrement dit, ressentir du remords, éprouver de la tristesse face aux péchés, regretter notre conduite du passé, et désirer changer de direction pour le présent et l'avenir. Donc, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, oui, il y a des changements. Il ne peut pas ne pas y avoir de changement. Les changements sont progressifs, les changements diffèrent d'une personne à l'autre, mais la personne ne peut pas demeurer telle qu'elle, elle ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Il y a un changement si elle se repent vraiment. Puis l'expression « convertissez-vous », elle signifie se tourner vers Dieu, se tourner sur soi-même ou faire volte-face pour revenir à l'amour et à l'obéissance de Dieu, à l'amour de la sagesse et de la justice. Dans Ézéchiel 18, versets 31 et 32, il est écrit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» C'est l'Éternel qui parle. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » Le Seigneur ne veut pas que les gens meurent. Le Seigneur ne veut pas que les gens aient un enfer. Le Seigneur ne veut pas que les gens se perdent. Il les appelle pour qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » C'est ce qu'il désire, qu'on soit vivant pour lui. Jésus a dit dans Luc 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Pas ceux qui se pensent justes, mais ceux qui réalisent leur condition de pécheur, parce que c'est eux qui vont se repentir et se convertir. Jésus nous appelle à la repentance. La repentance amène un changement fondamental dans notre relation avec Dieu. C'est le premier pas dans la vie du croyant. Puis le salut, est-ce qu'on peut y contribuer? Le salut, c'est l'œuvre de qui? Bien, le salut, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu le Père, dans Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi, c'est Jésus qui parle, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, c'est Dieu le Père qui attire le pécheur à Jésus-Christ. Jean 3, verset 16 à 18, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est Dieu qui a donné le Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, c'est Dieu le Père, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, c'est Dieu qui attire à Christ, c'est Dieu qui a envoyé Christ et qui a donné son Fils. Dans Jean 3, verset 36, c'est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Nous voyons ici que le pécheur doit s'approprier le salut par la foi. Dieu a tout planifié. Jésus a tout accompli. Dorénavant, le salut est offert à tous, mais seulement ceux qui y croient pourront en bénéficier. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Maintenant, voyons les versets qui parlent de la participation du Fils au salut. Jésus, Dieu le Fils, s'est fait homme pour accomplir le plan du salut. Il s'est incarné, il a pris un corps pour pouvoir mourir à la croix, être un sacrifice. Dans Marc 10, verset 45, c'est écrit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est lui qui l'a donné sa vie. On ne l'a pas ôté. S'il avait voulu, il n'aurait jamais été sacrifié, mais il a donné sa vie. Dans le jardin de Gethsémané, juste avant son arrestation, Jésus a dit, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Alors, ça n'a pas été facile pour Jésus. Il ne faut pas penser que parce qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu le Fils, que ça a été facile. Il avait un corps humain. Il savait toutes les souffrances qui l'attendaient. C'était dur. Il a vécu de l'angoisse quand il était dans le jardin de Gethsémané. Mais il s'est soumis à la volonté du Père. Il a obéi jusqu'à la fin. Dans Jean 19, 30, c'est écrit « Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. L'œuvre de Jésus est parfaite. Nous ne pouvons rien y ajouter. Notre part, c'est d'y croire. Alléluia. Et maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut, dans Jean 16, versets 7 et 8. « Cependant, je vous dis la vérité, et il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Dieu le Père attire le pécheur à Christ. Le Saint-Esprit le convainc que ce que Christ a accompli, c'est pour sauver son âme. Voyez la collaboration entre les trois, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit, c'est la personne divine qui ouvre dans le cœur du pécheur, qui œuvre, c'est-à-dire dans le cœur du pécheur, pour le convaincre de son état. Parce que vous dites à quelqu'un qui est pécheur, bien souvent il va dire, ben non, pas pire qu'un autre. Non, c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. Alors, oui, on témoigne, mais après, on arrose par la prière afin que le Saint-Esprit fasse son œuvre et qu'il convainque la personne de son état et de son besoin d'être sauvé. Il est aussi, le Saint-Esprit, celui qui transforme le croyant, le faisant passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. On appelle ça la nouvelle naissance ou naître en esprit. Ou la régénération. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut. Dans Jean 3, versets 5 à 7, il est écrit, « Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le Dieu trinitaire qui sont à l'œuvre pour le salut, pour la rédemption de l'humanité. Alléluia. Comment acquérons le salut? Comment on l'acquiert? C'est par grâce au moyen de la foi qu'on acquiert le salut. Nous ne méritons aucun des bienfaits que Dieu nous accorde, car nous sommes des rebelles et des pécheurs par nature. Nous sommes trop orgueilleux et égoïstes pour reconnaître notre état de pécheur et vouloir nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est par pure grâce que Dieu vient à notre secours. Il ne nous doit rien. Il aurait pu tout détruire l'humanité et recommencer à neuf. Il ne nous doit absolument rien. C'est par pure grâce que Dieu vient à notre secours et qu'il nous offre le moyen d'être réconciliés avec lui et de vivre pleinement la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour vivre la vie dans le monde. Il nous a créés pour vivre une vie en communion avec lui. Et c'est seulement en communion avec lui que nous pouvons être heureux. Une vie qui commence dès ici-bas, la nouvelle naissance à notre conversion, et qui se poursuivra éternellement. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous vivrons éternellement cette communion avec Dieu. Elle sera encore plus intense parce qu'il n'y aura plus aucun obstacle lorsque nous serons réunis avec lui. Il n'y aura plus de pleurs, de chagrins, de maladies, d'épreuves, de tentations. Tout ça, c'est ici-bas. Mais lorsqu'on va être avec lui, ça va être le bonheur et la félicité éternelle. Ça vaut la peine de persévérer jusqu'à la fin dans la foi et d'en emmener d'autres avec nous. Ne soyons pas égoïstes. Ça, c'était avant de connaître le Seigneur. C'est notre ancienne nature. Maintenant, on n'est plus égoïste. On est généreux. On veut faire connaître à tout le monde que le salut est en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 4 et 9, il est écrit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, fallait-il qu'il nous aime? » Pour nous, qu'on l'a bafoué, qu'on ne croyait pas en lui, qu'on parlait peut-être mal contre lui aussi, qu'il nous a tellement aimés. Qu'il nous a, non seulement il a donné son fils, le 2000 ans, mais il nous le révèle encore aujourd'hui, parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement. Alors, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça ne peut pas être plus clair, ce n'est point par les œuvres. Le salut, oui, c'est merveilleux, c'est fantastique, mais ce n'est pas une garantie éternelle, inconditionnelle. Il y a une fausse conception du salut qui proclame « sauver un jour, sauver toujours ». Le salut n'est pas un moment dans notre vie qui nous assure la félicité éternelle. Ça, c'est faux. Le salut, c'est à la fois une nouvelle vie qui commence, il y a un jour où ça commence, et un objectif à atteindre pour l'éternité. C'est pour ça qu'on parle de persévérer jusqu'à la fin, en fait, d'atteindre cet objectif. Dans Hébreux 12, verset 1, il est écrit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Et dans Philippiens 3, les versets 12 à 14, il est écrit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, » ça c'est Paul qui écrit ça, « ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, laissons le passé derrière, et me portant vers ce qui est en avant, l'avenir avec Jésus-Christ, à tous les jours, chaque jour suffit sa peine, on oublie le derrière. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La carrière qui nous est ouverte, dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et la course dans laquelle nous sommes engagés, que parle Paul, bien, ça représente le test de la foi auquel nous sommes soumis tout au long de notre vie ici-bas. Nous devons courir avec persévérance, en rejetant le péché qui nous retarde ou nous ralentit, et en fixant nos yeux, nos vies et nos cœurs sur Jésus. Nous devons courir en sachant que le plus grand danger auquel nous sommes confrontés est la tentation de céder au péché, de retourner dans la patrie d'où nous sommes sortis et de redevenir des citoyens du monde. Dans Hébreux 10, versets 38 et 39, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, donc il est possible qu'un juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous, ça c'est Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ici, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons la foi, nous gardons la foi. 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ces avertissements de l'apôtre Jean, là, ça s'adresse à des chrétiens, pas à des gens du monde. C'est à des chrétiens nés de nouveau qui étaient dans l'Église primitive. Il y a donc un risque de retourner à notre ancienne vie par amour pour le monde. C'est ça le danger du monde. C'est d'être attiré pour finalement délaisser de plus en plus les choses de Dieu et inclure des choses du monde dans notre vie. Et finalement, on se retrouve à vivre dans le monde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous met en garde de ne pas abandonner de persévérer dans Hébreux 10, versets 35 et 36. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'oublions jamais ce qui nous attend là-haut. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Quand on est tenté, pensons à ce qui nous attend. Est-ce que ça vaut la peine pour des choses qui sont banales, qui sont partielles, qui sont temporaires, de perdre des richesses éternelles? Jésus lui-même a dit dans Jean 5, versets 28 et 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ceux qui auront fait le bien, d'après les Écritures, le jugement est toujours fondé sur les actions. Il dit ceux qui auront fait le bien, parce que celles-ci sont une manifestation de la foi et de la condition intérieure du cœur. Ce qui signifie que nous serons jugés, non en fonction de notre profession de foi en Christ, mais en fonction de la vie que nous aurons menée. Beaucoup de gens se proclament chrétiens, disent aimer Jésus, mais ils vivent dans le monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque nous déclarons que Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, cela doit se voir dans notre façon de vivre. Les avertissements, la mise en discipline et les réprimandes que nous trouvons tout au long des Écritures ont pour but de nous permettre, à nous les croyants, de ne pas perdre ce salut futur. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, n'importe comment. Je frappe, non pas comme battant l'air pour des choses insignifiantes, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est le grand apôtre Paul qui dit cela. Si c'était vrai pour lui, c'est aussi vrai pour nous. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons persévérer dans la sanctification jusqu'à la fin. Et nous allons terminer avec ce passage de 2 Pierre 1, versets 5 à 11. Pierre a écrit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. N'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls dans ce processus de sanctification. Nous avons la parole qui nous guide, qui est une lumière à nos pas, et nous avons le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui vit en nous et qui nous met en garde lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a une épreuve, une tentation. Il est là pour nous fortifier, pour nous rappeler justement la parole, pour nous aider à vaincre. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Amen.